Salut à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Bienvenue à cette session d'information du Monde aujourd'hui présentée par Nanit Talani. À la une ce matin, poursuite de la CAN en Côte d'Ivoire. Nous retrouverons tout à l'heure nos envoyés spéciaux pour en savoir plus. En Guinée, interpellation des journalistes dans une banlieue de Conakry. Au Royaume-Uni, le premier ministre britannique Sunak veut mettre en œuvre son plan sur l'immigration. La rénovation des écoles coraniques au Tchad, un espoir pour la scolarisation des enfants et un moyen de les protéger contre Boko Haram. Puis au Niger, le trafic de migrants repart de plus belle à Agadez, surnommée la porte du désert. Ce sera dans notre partie magazine. En attendant, voici le journal. Pour débuter cette édition du Monde aujourd'hui, nous prenons la direction d'Abidjan afin de retrouver nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Ouitraogo pour le journal de la CAN.
Bonjour à tous. Les matchs de ce vendredi sont très attendus. Dans le groupe C, le Cap Vert fait face au Mozambique à 14h temps universel au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 20h. La Guinée et la Gambie seront aux prises juste avant. À 17h, ce sera le choc tant attendu des Lions, ceux du Sénégal, qui font face aux Lions indomptables du Cameroun au stade Charles Kona Bani de Yamoussoukro. Une victoire qualifierait les champions en titre sénégalais pour les huitièmes de finale. Des Sénégalais résidents à Abidjan que nous avons rencontrés se disent confiants.
Je suis de nationalité sénégalais, donc je supporte forcément le Sénégal. Ouais, non, c'est une continuité. On va continuer jusqu'à la finale contre la Côte d'Ivoire. On va les écraser. Les Camerounais, ils vont même pas traîner devant nous. On va les écraser. Ah, ouais, on est plus près que.
Disais, les Camerounais, ils disent que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en danger, ils deviennent dangereux.
Ouais, mais nous sommes des lions. On va leur montrer qu'il y a un seul lion qui règne et c'est nous. On attend nos confrères ivoiriens à la finale de la CAN.
Prendre coup plan encore. Oui, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va le prendre coup plan encore. On va prendre deuxième à partir au Sénégal.
En face, les Lions indomptables ont besoin d'une victoire pour se relancer après leur match nul d'un but partout, concédé contre le Sili national de la Guinée. Malox est un artiste camerounais venu à Abidjan pour supporter son pays.
Je suis même persuadé qu'on va remporter la CAN. Parce que chez nous, il y a une expression aussi qui dit quand tu vois une situation, on dit souvent au Cameroun qu'il ne faut pas paniquer, c'est le schéma. C'est une expression propre de chez nous, hein. Que ne t'inquiète pas, sois posé, c'est le schéma. Donc, ce qui s'est passé au premier match là, au Cameroun, on appelle ça le schéma. La suite du schéma, on va dérouler. Donc, on n'a pas de problème. Nous, on sait qu'on va gagner.
Je suis Manibela Palapalaouman, internationale. Je suis très bien arrivée dans ce magnifique pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je suis là en mission sauvetage pour nos lions indomptables du Cameroun. Vous savez, le premier match, ça a été un nul. Mais demain là, avec le Sénégal, le Cameroun sera victorieux de 2-1. Et puis voilà. Nous sommes ici pour prendre la coupe. Moi, je suis là pour porter la coupe, traverser le pont avec la coupe. Et aller à Yaoundé avec. Donc voilà, on est dans la belle famille. L'accueil a été magnifique depuis l'aéroport. Tout se passe super, super bien. Mais bon, je vous aime beaucoup, hein, la Côte d'Ivoire. Mais matière de football, là, c'est le Cameroun, les numéros 1.
Kopo est aussi un autre artiste camerounais.
Les gens sont sympas, c'est cool ici. Aquaba de partout. Mais bon, on est là. Moi, j'ai mes deux épaules pour ceux qui vont pleurer plus tard. Vous savez, le pays organisateur, il prend goût avec la victoire, là. Je vais faire comme mon grand frère, mais oui.
Vous allez sortir les boules.
Les mouchoirs de partout pour ceux qui vont pleurer.
Vous allez sortir les boules de la compétition.
Le Cameroun est là pour prendre le trophée, le ramener au village, le village de mariage de l'épouse. Elle nous suit, elle fait à manger pour les invités qui viennent célébrer le trophée. C'est un peu ça le rôle de la Côte d'Ivoire, revenu au Cameroun pour faire les balles à terre avec nous, avec la belle famille.
Vous allez rire en faisant sortir les boules.
Bon, je ne souhaiterais pas que ce soit le Cameroun qui élimine la Côte d'Ivoire. Ce serait quand même un peu cruel. Mais je sais que petite finale Cameroun-Maroc avec élimination de la Côte d'Ivoire par le Maroc. C'est un peu... C'est Nyanga, non? Ça donne, non?
Vous êtes Abidjan.
Oui, mais je suis dans ma belle famille. J'ai doté. Est-ce que j'ai volé? Ils vont me faire quoi? C'est l'amour. On a Mbunja, on a win le match. Les patères, les matères, les jaguets se lâchent. Les jaloux, les filous, les relous se cachent. Mais faut lever les joss, les divers qui fâchent. Check ton sikin, les gamines te tchatchent. Njoka, jusqu'à l'Andoka, te page, c'est ça, ça y est. Allez les lions, vive le Cameroun. Et Botan.
Je porte mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te maries, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Tu es mon père quand j'ai déjà mis mes gars. Mon frère, est-ce que je vous gère? Les gars sont prêts, les gars sont prêts. Ça sort comme ça sort aujourd'hui.
Hier, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, s'est inclinée 1-0 devant le Nigeria de Victor Osimhen, auteur d'un pénalty qui l'a provoqué et fait transformer par son capitaine William Troost-Ekong au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Grâce à cette victoire, les Super Eagles se lancent et partagent la première place du groupe A avec la Guinée équatoriale qui a battu la Guinée-Bissau 4-2, dont un triplé de Emiliano Ntsoué. C'est le premier triplé à la CAN depuis celui du Marocain Soufiane Aloudi en 2008. Les éléphants sont troisième du groupe A et les Bissau guinéens bon dernier. Pour les sélectionneurs de la Côte d'Ivoire, ces poulains ont manqué de patience.
Il fallait qu'on ait la patience, il fallait qu'on ait la maîtrise, il fallait qu'on passe par les côtés et qu'on arrive à marquer un petit but parce que c'est un match fermé. Notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire, alors que je pense que le gardien du Nigeria a fait 2-3 parades. Ça a joué sur... Un détail sur le meilleur joueur du Nigeria.
Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Bagassi Koura, Yacouba Ouédraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
Aux Comores, l'opposition appelle la population à manifester aujourd'hui pour dénoncer la victoire contestée du président sortant Azali Assoumani à la présidentielle du 17 janvier, estimant que cette présidentielle a été émaillée de fraude. L'appel intervient après 2 jours de heurts qui ont fait 1 mort et 6 blessés dans la capitale Moroni. En Guinée, les gendarmes ont interpellé hier dans la banlieue de Conakry plusieurs journalistes qui projetaient de protester contre les sévères restrictions infligées depuis plusieurs semaines à la liberté de la presse et l'accès à Internet sous la junte au pouvoir. Les détails avec Rosine Munezero.
Des journalistes s'étaient retrouvés à la maison de la presse où ils tiennent d'ordinaire des rencontres ou des conférences de presse. En vue d'une journée de manifestation, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Deux responsables de la presse ont fait état, sous le couvert de l'anonymat, d'une dizaine de journalistes interpellés au total à la maison de la presse et ailleurs en banlieue, indiquant que tous ont été conduits à la gendarmerie. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, avait appelé à manifester pour libérer les médias et réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, avait présenté récemment les mesures contre certains médias, comme la réponse à des pratiques telles que l'apologie de la haine communautaire ou la propagation de discours divisifs. Les autorités ont suspendu mercredi pour 9 mois le site d'information Dépêche Guinée et pour 6 mois l'auteur d'un article sur des fonds publics guinéens considérables qui pourraient avoir été détournés et qui seraient, selon lui, bloqués à Dubaï. Un responsable d'une radio très écoutée, Espace FM, a indiqué sous le couvert de l'anonymat avoir découvert avec surprise jeudi matin que les programmes avaient été piratés et remplacés par de la musique militaire.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra la semaine prochaine en Afrique subsaharienne pour la première fois en 10 mois, a annoncé jeudi le département d'État, soucieux d'y contrer les avancées de la Russie et de la Chine sur le continent. Les précisions de John Lindon.
Anthony Blinken mettra le cap dès lundi sur le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. Il devrait parler de croissance économique et comment faire progresser les partenariats de sécurité fondés sur des valeurs communes telles que le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et l'extension de l'état de droit, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué. Il s'agira du 4e voyage du secrétaire d'État américain en Afrique depuis sa prise de fonction. La visite de M. Blinken interviendra dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui s'est rendu mercredi en Côte d'Ivoire, dernière étape d'une tournée africaine qui l'a amené en Égypte, en Tunisie et au Togo. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et se présente comme un meilleur partenaire pour l'Afrique que la Chine, qui finance de grands projets d'infrastructure à coup de prêts. La Russie est quant à elle, par l'entremise du groupe mercenaire Wagner, active au Mali, en Centrafrique et présumément au Burkina Faso.
Le gouvernement du Burkina Faso affirme avoir déjoué une énième tentative de déstabilisation et lancé une traque contre un réseau impliquant des militaires et des civils. Selon le ministre de la Communication, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, ce réseau, qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres, planifié de déstabiliser les institutions du Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden estime que l'augmentation abrupte des tensions entre le Pakistan et l'Iran démontre que ce dernier pays, bête noire des États-Unis, n'est pas apprécié dans la région. Les détails avec Jacques Aristide.
Interrogé hier par des reporters à la Maison-Blanche sur les attaques réciproques des derniers jours, l'occupant du bureau ovale a dit ceci. L'Iran n'est pas particulièrement apprécié dans la région. Je ne sais pas où cela va mener, a ajouté Joe Biden. Washington ne veut pas d'escalade en Asie du Sud et en Asie centrale, a déclaré pour sa part John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. L'exécutif américain suit de très près les tensions entre les deux pays qui se sont brutalement aggravées, a indiqué John Kirby. Le Pakistan, pays allié des États-Unis, a été frappé en premier par l'Iran, ce qui est une nouvelle attaque dangereuse, un nouvel exemple du rôle perturbateur de l'Iran dans la région, a poursuivi le porte-parole de la Maison-Blanche. L'Iran a protesté contre des frappes menées par le Pakistan, unique pays musulman doté de l'arme nucléaire, contre des caches terroristes. Ces frappes, qui ont fait au moins 9 morts, interviennent 2 jours après une attaque similaire perpétrée par Téhéran sur le territoire de son voisin pakistanais, au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre entre le Hamas palestinien et Israël dans la bande de Gaza et par les attaques des rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran contre des navires en mer Rouge.
Deux commissions parlementaires dominées par la majorité républicaine ont annoncé jeudi que le fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden, sera auditionné fin février au sujet d'affaires douteuses à l'étranger dont elle l'accuse. Après la Chambre des communes, le premier ministre britannique Rishi Sunak appelle la Chambre des Lords à adopter rapidement son projet de loi visant à expulser au Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Pour lui, il s'agit d'une priorité nationale urgente. Les précisions avec Lionel Gaïma.
En conférence de presse, Rishi Sunak a pressé les lords qui composent la Chambre haute du Parlement d'adopter le texte le plus vite possible pour que nous puissions commencer à faire décoller et voler des avions vers le Rwanda. La Chambre des communes, où siègent les députés, a adopté mercredi soir, à une confortable majorité, ce texte très controversé et critiqué jusqu'aux Nations Unies. L'enjeu est de taille pour le Premier ministre Rishi Sunak et le Parti conservateur qui ont fait de ce projet le socle de leur politique de lutte contre l'immigration clandestine. Londres espère pouvoir le mettre en application avant les élections législatives prévues cette année. Ce vote représentait ainsi un nouveau test de l'autorité du chef du gouvernement sur ses troupes dans un parti divisé et à la traîne de 27 points dans les sondages. Le projet de loi qui assure que le Rwanda est un pays tiers sûr pour y expulser des demandeurs d'asile sans attendre l'examen de leur dossier, sans possibilité de retour, doit désormais être examiné par les membres non élus de la Chambre des Lords où des critiques se sont déjà fait entendre à plusieurs reprises sur le texte.
Un alunisseur américain qui n'était pas parvenu à atteindre la Lune à cause d'une fuite de carburant en vol a été perdu volontairement jeudi, probablement désintégré en rentrant dans l'atmosphère terrestre, a annoncé la start-up ayant conçu l'appareil. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, Nanit Talani, de nouveau avec vous pour la partie magazine. Au Niger, la ville Agadez, surnommée la porte du désert, connaît un regain d'activité dans le trafic de migrants depuis que les autorités militaires ont abrogé en novembre une loi de 2015 criminalisant ce trafic. D'après des témoignages, des dizaines de migrants, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, sont entassés chaque jour dans des véhicules qui les transportent vers la Libye puis vers l'Europe. C'est un récit de Dili Diko.
Les visages couverts pour se protéger du soleil et du sable, agrippés à des bâtons pour éviter une chute mortelle en plein désert. Ils sont des dizaines de migrants à être entassés dans des pick-up à l'arrière de la principale gare routière d'Agadez, ville du nord du Niger. Les migrants attendent le départ vers la Libye. Écoutons Aboubakar Alilou, un passeur de migrants.
Depuis l'abrogation des lois, les gens étaient vraiment étaient contents, les gens ont applaudi cette abrogation des lois. Parce que si vous voulez, maintenant tu peux prendre des passagers tranquilles, tu peux aller là où tu veux, mais dans le temps, c'était pas facile, c'est comme si on te voyait avec de la drogue. Tu es poursuivi par les autorités, tu es incarcéré dans les prisons parce que suite à ça, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot.
Turbans, sachets d'eau, cigarettes, les marchands ambulants se pressent autour des véhicules avant la dangereuse traversée du Sahara. Les retardataires s'activent pour payer leurs billets et présentent leurs documents de voyage aux policiers. Bachir Hama est président d'un syndicat des passeurs de migrants.
On ne fait pas le trafic, c'est les Européens avec Mohamed Issou qui disent ça, c'est trafic, c'est pas trafic. Nous faisons un travail normalement, nous travaillons avec le convoi militaire. Avant, quand il n'y a pas la loi, les migrants, c'est chaque lundi, ils partent dans le convoi jusqu'à arriver à la frontière. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, quand la loi a été votée, donc le travail est devenu un grand problème. Les jeunes ne travaillent pas.
L'abrogation fin novembre de la loi de 2015, controversée et impopulaire dans le pays, est censée faciliter le voyage des migrants vers le Maghreb et l'Europe, mais aussi redynamiser l'économie d'une région en proie à une forte criminalité. Youssouf Sako est un migrant ouest-africain.
Je peux dire que ça a facilité beaucoup de choses pour nous, quoi. Parce qu'avant, à Cadès, quand tu sors, tu as peur. Comment les autorités ne vont pas te faire arrêter ou bien la population même ne va pas te demander si tu es un migrant. Mais aller là, tout est simple. Tout est simple, tout est facilité dans la main des migrants. Les migrants voyagent normal et traversent vers la Libye, vers l'Algérie aussi.
Malgré l'abrogation de la loi, certains passeurs continuent d'avoir peur de faire ce travail. Ils préfèrent partir de nuit en convoi clandestin, évitant gare routière et formalités administratives.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La manipulation et les conflits ont toujours fait bon ménage, mais le phénomène a pris de l'ampleur avec l'avènement des réseaux sociaux, vecteurs sans limite de désinformation. Les conflits dans le Sahel sont un outil de mesure de ce phénomène de plus en plus inquiétant, c'est ce que montre ce reportage de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson-Sombou.
La désinformation occupe de plus en plus de place dans les conflits au Sahel. Elle est même devenue une arme aussi redoutable qu'une Kalachnikov. Une réalité perceptible dans les discours, mais également les attitudes d'un public facilement manipulable. Rien de surprenant pour Samba Diallo Mpabagi, chercheur en désinformation.
Puisque en Afrique subsaharienne, on a de plus en plus de conflits, et ces conflits se déroulant dans un contexte bien particulier, c'est tout à fait normal qu'on voit aussi que dans le même contexte, on voit une sorte d'explosion de la désinformation avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux. Mais aussi, on voit que de plus en plus, les acteurs en conflit aussi se saisissent de ces outils-là pour faire de la désinformation ou pour faire leur propagande.
L'institutionnalisation de la propagande soutenue par le numérique accentue la vulnérabilité des populations à la désinformation. Cette perversion des réseaux sociaux est perçue comme un véritable danger pour la stabilité du Sahel par Dr Mamadou Bodian, chercheur, membre fondateur du groupe de recherche sur le Sahel.
L'utilisation des médias sociaux, mais surtout d'autres plateformes en ligne, a un effet déstabilisateur. Pourquoi ? Parce qu'il peut conduire notamment à créer un environnement de peur, à amplifier parfois les clivages. Mais il ne faudrait pas s'attendre à ce que la situation revienne à la normale puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital et du numérique.
L'évolution rapide du paysage de l'information avec le numérique appelle à plus de vigilance pour ne pas céder au diktat de la désinformation. Pour faire face, la sensibilisation des populations est plus que nécessaire, estime Samba Diallo Mpabadji.
Si les gens sont bien informés des dangers, sont outillés pour procéder à des vérifications simples sans être obligés d'être fact-checkers, mais vraiment des vérifications basiques pour savoir est-ce que cette information est authentique ou pas avant de partager. Je pense que ça peut aider à atténuer les choses.
Mais le contrôle des flux d'informations qui passent par les réseaux sociaux et la lutte contre la désinformation passent, d'après Dr Mamadou Bodian, par des décisions fortes des États en termes de législation.
Aller aussi vers une plus grande conscience par les citoyens de l'importance de se retenir quand il s'agit justement de partager des informations qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas vérifiées, mais surtout amener l'État à mettre en place des régulations, des législations qui permettent de protéger contre la désinformation.
Mais en attendant des mesures dissuasives des dirigeants, la désinformation continue de prendre en otage une bonne partie de l'opinion dans la région du Sahel. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, l'école coranique de Bagassola, dans la province du lac Tchad, expérimente une phase pilote de rénovation. En plus des cours coraniques, les élèves de cette école, créée en 2001, suivent le programme officiel d'enseignement du pays. Cette initiative du gouvernement de N'Djamena et de ses partenaires vise à assurer l'éducation des enfants des écoles coraniques, qui sont très vulnérables et facilement exploitées par la secte Boko Haram. André Code Madingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Le jumelage de l'école coranique de Bagassola avec l'école formelle date de 2021 et participe à la politique de rénovation des écoles coraniques dans la province du lac Tchad, un projet piloté par l'UNICEF grâce à l'appui de la Ligue islamique mondiale. Le bâtiment scolaire complètement délabré a été réfectionné par les partenaires humanitaires. Un accord entre l'UNICEF et l'État tchadien a permis de recruter 4 enseignants au début de ce projet. Le partenariat a pris fin l'année dernière et la délégation régionale de l'éducation nationale n'est pas en mesure de supporter la charge de ses enseignants. La politique de rénovation a été initiée pour conscientiser les enfants des écoles coraniques communément appelées Mouhadirines, qui sont souvent utilisés par les éléments de la secte Boko Haram comme kamikazes. Maloum Ali est le directeur de l'école coranique de Bagassola.
L'année dernière, comme les enseignants étaient nombreux, ces enfants ont bénéficié aussi des cours en français et en anglais. Mais cette année, comme je suis le seul à intervenir, ce n'est pas du tout facile. J'interviens à tous les niveaux. Je fais des navettes entre les classes. Les apprenants sont nombreux. Ils viennent de Dar es Salaam et du centre-ville de Bagassola.
L'imam de Bagassola, Sheikh Ali Omar, se réjouit du partenariat entre l'État tchadien et les organisations humanitaires ayant permis la rénovation de cette école pilote.
Le jumelage de l'école coranique avec l'école formelle, il y a 4 ans, dans notre localité, est une très bonne chose. Et nous en sommes reconnaissants, car grâce à ce jumelage, nous avons bénéficié de la construction de salles de classe, même si ce n'est pas suffisant. Quelques enseignants ont été rémunérés. Il y a aussi la cantine scolaire qui permet aussi de lutter contre la mendicité. Tous ces enfants que vous voyez viennent à l'école à 7 heures et rentrent à 12 heures.
À la question de savoir si les écoles coraniques de cette localité seront fermées à l'avenir, Nancy Ndala, du service de la communication de l'UNICEF, répond.
Ce sont des questions aussi liées à la religion. On ne peut pas du coup fermer. Donc, on espère que si ça marche ici, on pourra aller dans d'autres pays. Et certaines écoles coraniques vont se fermer. Avoir maintenant des écoles coraniques rénovées. Le mot rénover, c'est simplement parce que dans ces écoles, on va au-delà de l'enseignement coranique. Mais on contribue aussi à la protection de ces enfants. Parce que les fouets qui étaient là-bas, les suppriment. La mendicité qui expose les enfants, on les supprime. Parce qu'il y a aussi une cantine scolaire ici.
Dans le cadre de la rénovation des écoles coraniques dans la province du lac Tchad, plus de 350 élèves de l'école rénovée de Bagassola, dont plus de 220 filles, apprennent la langue arabe et la pratique islamique. Mais aussi d'autres matières édictées par le Centre national de curricula du Tchad. André Godoma Dingar, de retour de Bagassola pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le Gabon est certes absent de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue en Côte d'Ivoire, mais les supporters des différentes équipes qualifiées ne se laissent pas compter cet événement retransmis en direct. Partant du jeu des pronostics jusqu'au défi entre fans du football, les rencontres de la CAN 2023 ne manquent pas d'intérêt dans les cafés et autres espaces publics de la capitale gabonaise. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant Ismaël Obianze depuis Libreville, la capitale gabonaise.
Vainqueur de la Gambie 3-0, le Sénégal entre en compétition avec plus de sérénité. Et pour les fans des Lions de la Teranga qui vivent à Libreville, les poulains d'Alul Cissé sont encore capables d'un deuxième trophée continental. Didier Abdoulaye, chauffeur de taxi.
On va gagner le Cameroun, on gagne la Guinée. Et ça continue jusqu'en finale. Après, on va soulever la coupe et ramener ça au Sénégal. Parce que c'est ce que le président veut, notre président Macky Sall. Il a dit ça aux joueurs.
Prochain adversaire du Sénégal, le Cameroun. Les Lions indomptables sont avertis. Une guerre de fauves avant l'heure qui se joue déjà dans les rues de la capitale gabonaise.
La première coupe du Cameroun, on a pris en Côte d'Ivoire. Donc c'est la même coupe qu'on va encore envoyer au Cameroun.
On tape la Guinée.
Le Cameroun, c'est deux buts contre le Sénégal.
Le Cameroun va gagner quoi devant le Sénégal? Ça ne peut pas marcher.
3 buts contre le Sénégal.
Pourtant cité parmi les favoris de l'épreuve, le Cameroun n'a pas fait mieux qu'un nul 1-1 contre le Sili de Guinée. À Conakry comme à Libreville, ce résultat renforce l'espoir des supporters guinéens.
Et c'est encore le carton rouge. Sinon, le Cameroun n'allait pas même légaliser le but. Ouais. Ils auront. Ils vont faire match nul même avec le Sénégal. Mais ils vont gagner le Gambie, Inch'Allah. Ça c'est clair. Quand ils gagnent le Gambie, ils iront loin.
Dans ce bar de Camerounais situé à l'ancienne gare routière de Libreville, l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations de football est survoltée depuis le week-end dernier. Ernest et ses compatriotes ne cèdent pas au pessimisme.
Depuis l'autre jour, là, c'était une mise en scène. Mais la CAN commence aujourd'hui. Le continent doit commencer à faire ce qu'il peut montrer aux pays africains. Donc j'étais là pour m'apprêter, habiller et mettre mon drapeau que voici. Donc je me dis que la victoire sera peut-être à 3 buts à 1.
Comme certains observateurs indépendants de Libreville, Moussavou est un jeune Gabonais qui voit le Sénégal conserver son titre de champion d'Afrique.
Comme le Gabon n'est pas doué au football, ils ne sont pas qualifiés. J'ai décidé de supporter le Sénégal jusqu'à la fin. Et le moment où ils sont champions d'Afrique, et à mon avis, c'est la meilleure équipe africaine.
Guinée équatoriale, Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire-Nigeria sont deux belles affiches attendues pour cette autre étape du tournoi. Les paris et les pronostics des rencontres de la CAN enflamment les débats dans les espaces publics à Libreville. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Point final à cette session du monde aujourd'hui. Un grand merci à Lionel Gaïma pour la réalisation et à Charleston pour la technique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Au micro, Nanit Talani depuis Washington. L'actualité se poursuit sur nos ondes, sur voaafrique.com, sans oublier nos réseaux sociaux, nos plateformes Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.